9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran vous salue, mes camarades. Je suis ravi d'être parmi vous en ce vendredi noir, normal, hein, grève obligée. Solidarité, les gars, on ne lâche rien. Alors, la semaine dernière, mon cher Philippe, vous avez exigé, le terme est faible, vous avez exigé de lire ma chronique avant que Maître Serran ne puisse la lire en direct.
Pour des tas de raisons, voilà. Parce qu'après on a des récriminations.
On est d'accord. Voilà, bon. J'ai donc tenu promesse, je vous ai soumis ma chronique et tout ce que je vais dire aujourd'hui a été validé par vous. Alors la semaine dernière, vous m'avez dit, ouais Maître Serran, arrêtez, on n'en peut plus, arrêtez de parler dans vos chroniques de sgeg, de vomi, de caca, bref, enfin voilà, tout ce qui n'est pas joli. Et là, je me suis dit, c'est vrai. Ouais. Maître Serran, il faut prohiber ces termes de ton vocabulaire, nal chétan. Alors, je suis sur Internet et je tombe sur un article sur le Machu Picchu. Ah. Et là, je me dis, tiens, une chronique culturelle, nos auditeurs vont apprendre des choses. Il faut savoir que le Machu Picchu est une ancienne cité inca située au Pérou, dans les Andes, à 2430 mètres d'altitude. Et ceux de ma génération qui ont entendu parler du Machu Picchu ont probablement entendu parler de ça dans un dessin animé appelé, vous connaissez peut-être mon cher Philippe, les Mystérieuses Cités d'Or. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si ça ne vous dit rien, écoutez. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et là, je tombe sur un autre article intitulé « Des touristes expulsés pour avoir endommagé le Machu Picchu ». Je dis quoi, frère? Il y a des touristes qui ont endommagé le Machu Picchu et parmi ces 5 touristes indélicats, il y avait un Français. Le Français, il voyage mal. Je crois que ce qui a énervé les Péruviens, c'est pas que le site ait été abîmé. Non, ils ont découvert que le Français avait déféqué sur le site archéologique.
Non.
Eh ouais, si ça, c'est pas un manque de respect suprême. Le type, il a été chié sur le Machu Picchu. Le site, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est impardonnable. Là, je me suis dit, il déconne quand même, le Français. C'est impardonnable. Souiller le Machu Picchu, c'est comme si j'allais chier sous l'Arc de Triomphe. Et soudain, j'ai un vieux souvenir qui m'est revenu. Je vais avoir 18 ans. On était parti avec 3 potes dans le sud, en voiture, une Golf GTI, frère. Attention, à l'époque, j'étais une racaille. On arrive à Argelès, en pleine nuit.
Argelès-Gazos.
Et voilà, on est fatigué. Bon, on va dans un resto, on prend des fruits de mer, on reprend la route pour aller dans un camping tout pourri. Hein. J'ai que 18 ans à l'époque. Et sur la route, les 4, mais quasiment en même temps, on a une douleur au cœur, ça ne bouge pas possible. Des gouttes de sueur. Donc, il n'y a rien aux alentours. Et je leur dis, les gars, arrête la voiture, là, on peut plus, on peut plus. Donc, ils freinent, on sort en courant, on va sur le côté de la route. Et là, il y a un endroit, je dis, les gars, là, il y a un endroit bien. Il y avait un grand mur. Je suis comme ça, on est caché. On est tous près du mur, chacun fait ce qu'il a à faire. Hein. Et puis, soulagé, t'imagines, parce que c'était soit dans la voiture, soit à l'extérieur. Et au moment où on part, je vois un panneau, c'est intitulé « Bienvenue sur le site du château de Valmy ». En fait, on avait chier à Chacombe sur un site historique, frère.
Non.
J'en ai eu honte depuis toujours. Alors, quand j'ai appris qu'un Français avait déféqué sur le Machu Picchu, sur le coup, ça m'a énervé, mais ça m'a quand même rappelé quelques petits souvenirs de jeunesse, mon cher Philippe. Allez, quittez vos souvenirs, appelez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle du presque censeur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Ça, c'est pas fort.
Voilà. Ça, c'est que des bons souvenirs. Et le type, il a dû regarder ce dessin animé, il arrive sur place, et qu'est-ce qu'il fait devant un site pareil? Il défèque.
Franchement, Maître Serran, vous avez 10 ans, là, hein, finalement.
Ouais,
vous avez des cheveux, vous êtes frisé.
Ah, des cheveux, des cheveux. Un petit peu rond.
Ah ouais.
Ah, à l'époque, un petit peu rond, Mourad. Hein.
Ouais.
Bon, et après, hop.
Ovale.
Le gros kulch. Il est parti, si vous voyez ce que je veux dire, mon cher Philippe.
Cherchez des problèmes, Maître Serran. Franchement, aller en altitude pour faire des choses pareilles. Bien, alors tiens, sans transition aucune, Maître Serran, vous pourrez poser vos questions, Maître Serran, après la question juridique. Faut-il absolument contester une décision de refus d'ajournement d'une demande de naturalisation? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'un candidat étranger hésiterait à le faire?
C'est là la vraie question, puisqu'on pourrait se dire, bah évidemment, si on nous dit non, bah, dans ce cas-là, on va peut-être de facto contester. La difficulté, c'est que, d'ailleurs, cette question se pose spécifiquement pour des refus de naturalisation ou un ajournement. C'est-à-dire l'ajournement, on vous dit, écoutez, en gros, revenez dans 2 ans, et c'est en règle générale le timing qui est donné par l'administration. Donc spontanément, on peut se dire, bah, si c'est refusé, je vais contester, on verra ce qu'il en est. Alors pourquoi est-ce que la question est légitime? Parce que l'ajournement, c'est-à-dire que l'administration très souvent, on vous dit, attendez, il y a telle ou telle condition qui n'est pas réunie. Attendez, il y a une main courante qui, il y a 3-4 ans, a été déposée. Je ne parle même pas d'une plainte, une main courante. C'est-à-dire, votre voisin a pu dire, tiens, il fait trop de bruit ce type-là. C'est enregistré au commissariat et le jour où vous déposez une demande de naturalisation, l'administration va collecter toute une série d'informations sur votre passé pénal, sur votre comportement à l'égard de l'administration fiscale. Est-ce que vous avez toujours payé vos impôts en temps et en heure ? Et souvent, l'argument qui est invoqué par l'administration, c'est cet aspect-là, en disant, il y a eu un point noir un jour dans votre vie, il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, et en invoquant cet élément-là, on va vous dire, revenez nous voir dans 2 ans, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Alors, 2 ans, encore une fois, c'est pas un hasard quand très souvent l'ajournement est à 2 ans, pourquoi ? Parce qu'entre le moment où vous recevez la décision, et vous vous dites, ok, premier réflexe, c'est de se dire peut-être, je vais contester. Ils viennent voir l'avocat. L'avocat leur dit quoi ? Leur dit, il y a une première étape au préalable, il faut saisir le ministère de l'Intérieur. Donc à partir du moment où vous avez saisi le ministère de l'Intérieur, ce ministère de l'Intérieur a un délai de 4 mois pour vous apporter une réponse. Donc soit il apporte une réponse, si c'est positif, banco, c'est gagné. Soit il vous dit tout de suite, non, c'est hors de question. Soit il ne vous répond pas. Et s'il ne répond pas, on appelle ça en droit un refus implicite. J'ai le droit de ne pas répondre. Et à partir du moment où il y a un certain délai de passé, en l'occurrence 4 mois, vous êtes autorisé à aller devant un tribunal administratif. La difficulté ne vient même pas tant de ce recours préalable. Alors préalable, c'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire. Hein. Vous ne pouvez pas aller directement devant le tribunal. La difficulté vient du fait que devant le tribunal, il n'y en a qu'un en France qui s'occupe de ça. Il y a une compétence dite exclusive, c'est le tribunal administratif de Nantes. Le tribunal administratif de Nantes, quand il va vite dans ce type de dossier, c'est un délai d'à peu près 2 ans, un délai normal en la matière. Alors se dire, ok, l'administration me demande de revenir dans 2 ans, si je suis pas content, je peux contester, ça va me prendre 4 mois à minima avec le ministère, en gros 2 ans avec le tribunal administratif. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ou est-ce que je peux redéposer un nouveau dossier ? Comme ça, spontanément, on peut se dire, écoutez, patientez, ça sert à rien de faire le recours.
Stratégiquement, voilà, ouais, bon.
Et redéposer un nouveau dossier, on verra plus tard. La difficulté, c'est que l'argument qui va être invoqué par l'administration, si vous ne le contestez pas, considère que qui ne dit mot consent, c'est-à-dire que vous reconnaissez, entre guillemets, le reproche qui vous est fait, et ce même argument pourrait vous être à nouveau opposable et invoqué si demain, après-demain, vous redéposez un nouveau dossier. Alors que si vous contestez cet argument, je dis n'importe quoi, on vous parle d'une vieille main courante, vous la contestez en disant d'abord c'est qu'une main courante, encore une fois c'est la déclaration de quelqu'un contre vous, le commissariat vous a pas convoqué pour vous auditionner, donc vous pouvez mettre ça en avant devant le ministère, vous pouvez mettre ça en avant devant un tribunal administratif, et dans l'hypothèse même où le tribunal sera amené à ne pas vous donner raison, même si vous redéposez un dossier, ils ne pourront pas invoquer à nouveau cet argument. Voilà, puisqu'il a été évoqué devant une juridiction, et puis on passe à autre chose. La difficulté, quand vous ne contestez rien, l'administration va en gros faire un copier-coller, c'est-à-dire qu'elle va simplement dire « il n'a pas contesté à l'époque ce motif, je vais à nouveau invoquer le même motif. » Et vous aurez à nouveau un ajournement pareil de 2 ans, le plus souvent.
Pour la même raison.
Ils ont le droit, puisque...
C'est systématique ou pas ?
C'est pas systématique. Enfin, c'est pas systématique. Alors, juridiquement, ils peuvent invoquer autre chose, mais en règle générale, si vous ne l'avez pas contesté la première fois, ça revient sur la table. On peut comprendre la logique. Alors, c'est un peu tordu de la part de l'administration, mais si je vous dis, mon cher Philippe, il y avait une main courante à l'époque, vous ne me répondez pas là-dessus, vous ne me dites pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Vous dites, tant pis, je ne vais pas contester. D'abord, ça coûte des sous, il faut aller voir l'avocat, en plus c'est long. Et si vous redéposez un nouveau dossier, moi, administration, je vous fais le même reproche, j'aurai le droit, puisque je vous fais un reproche, je ne vous expliquez pas là-dessus. L'administration est pénible, je veux que vous me donniez une explication. Si vous ne le faites pas, vous pouvez redéposer 2 fois, 3 fois, 4 fois le même dossier, vous aurez toujours la même réponse. Donc c'est vrai que stratégiquement, c'est toujours difficile d'expliquer à nos clients quel est ou quel serait l'intérêt de contester ça. Parce que souvent, quand vous discutez avec les uns et les autres, ils vous disent « Tant pis, maître, l'administration me demande de patienter 2 ans et je vais redéposer. » On leur explique que quand vous attendez 2 ans et vous redéposez le dossier, ça ne veut pas dire qu'après l'administration va dire oui, ok, il a patienté 2 ans, c'est tranquille, on va lui dire oui. Souvent, les personnes pensent ça en disant, on me demande de revenir dans 2 ans, en se disant, c'est sûr qu'on va me dire oui. Ça ne résonne pas comme ça, l'administration. Vous avez un délai de 2 ans à attendre, vous redéposez un dossier, c'est-à-dire vous repartez à zéro, et moi, administration, je vais réétudier votre situation. Et je le redis, si j'ai invoqué un motif que vous n'avez pas contesté, à tous les coups, je vais presque dire que le travail est déjà mâché pour l'administration, à tous les coups, l'administration va vous ressortir ce vieux motif, et on vous dira encore, patientez 2 ans, c'est ajourné. Donc le conseil qui est à donner, c'est que quel que soit le motif qui est invoqué, il ne faut pas hésiter à le contester.
Alors, sinon, donc, ça va, c'est pas important, c'est quasiment obligatoire.
Ben oui, c'est ça qui est terrible. Parce que, je le redis encore une fois, hein, le commun des mortels peut se dire, quand on vient nous voir, maître, ça va durer combien de temps ? On leur dit en gros, c'est 2 ans la procédure. Voilà. Devant le ministre, s'il dit non, ou s'il ne répond pas, et devant le tribunal, il faut, en gros, avoir ce timing. Quand vous lisez votre décision et on vous dit, revenez dans 2 ans, encore une fois, je peux comprendre, mais c'est assez trompeur. Si vous ne contestez pas le premier motif de refus, c'est que vous considérez que ce motif est légitime.
Donc, vous avez commencé à en parler. Dans ces cas-là, le recours à un avocat est obligatoire.
Alors, le recours
pour contester, à l'avocat... pour contester la décision.
Absolument pas. Tout ce qui est droit administratif, vous pouvez vous passer de l'avocat. La difficulté, c'est comme tout, encore une fois, je prends souvent cet exemple, si je veux monter un mur, je vais m'adresser plutôt à un maçon, je vais pas essayer de le faire moi-même. La difficulté, c'est que autant devant le ministère, vous pouvez faire l'économie de l'avocat, autant devant un tribunal administratif, vous avez le droit de vous présenter sans avocat, c'est un peu plus complexe. Il y a des règles de forme à respecter, il y a des règles de fond. Donc, l'avocat n'est pas obligatoire, hein. Souvent je sors cette formule, mais sincèrement, c'est fortement conseillé en la matière. Sauf à être déjà un peu juriste ou de la partie, mais l'avocat est indispensable pour ce genre de dossier.
Et c'est quoi comme procédure ? Alors c'est une lettre, c'est
Alors c'est si alors le courrier auprès du ministère, ouais. C'est une lettre simple recommandée à R que le particulier peut envoyer à ce ministère. Toujours recommandée à R parce qu'il y a un timing à respecter. 6 mois administration, je vous ai pas répondu dans les 4 mois, refus implicite. À partir de là, on peut saisir le tribunal. Vous passez par un avocat, le document rédigé par l'avocat s'appelle une requête, mais un particulier peut ou pourrait envoyer un courrier au tribunal pour dire voilà la décision que je suis amené à contester. Comme ça, ça peut sembler, entre guillemets, simple et facile, mais on a quand même des conditions à respecter. Et des conditions à respecter, si vous ne les connaissez pas, il vaut mieux vous adresser à un avocat, à l'un de mes confrères en la matière.
D'accord. C'est long comme... comme procédure ?
Ouais, c'est long. Vous savez, souvent, les procédures en matière de droit des étrangers sont des procédures qui sont longues. C'est terrible à dire à nos clients, parce que quand on vient vous voir et on vous dit on m'a refusé la nationalité, bon, à la limite, ça peut être contrariant, mais c'est pas si grave que ça, puisque celui qui demande la nationalité française est quand même sur le territoire avec un titre de séjour, une carte de séjour. Donc, il est en situation régulière. Donc, il n'y a pas de danger particulier pour lui, si ce n'est le fait d'être déçu que la France lui ait refusé la nationalité. Mais ce timing qui est long pose des problèmes pour nos clients qui sollicitent un titre de séjour, pour nos clients qui se voient parfois retirer un titre de séjour. Ça veut dire quand même que pendant tout ce laps de temps, quand vous êtes devant le tribunal, l'intéressé est officiellement, on va dire, en situation irrégulière. Je vous laisse imaginer le topo, c'est-à-dire que d'abord, l'intéressé peut pas voyager hors des frontières. Au sein du territoire français, il peut toujours faire l'objet d'un contrôle d'identité ou autre. Donc, ce sont des procédures qui sont longues. Souvent, on me dit « Ah, mais maître, comme c'est des procédures pour les étrangers, entre guillemets, la France fait exprès ». Non, voilà, c'est le timing qui est comme ça. Il n'y a pas suffisamment de magistrats pour traiter ce genre de dossier. Et je le redis, en matière de nationalité, il n'y a qu'un seul tribunal en France qui fait ça, c'est Nantes.
Bien, vous avez une question à poser à Maître Serane. Toutes vos questions, 01 53 48 3000. Vous interrogez Maître Serane, 01 53 48 3000. À noter que tout à l'heure, 10h, 11h, l'islam au présent avec Ismaël Mounir. Ismaël Mounir qui reviendra sur cette fameuse série sur Netflix qui fait... beaucoup parlent d'elle, la série Messia. Allez, Maître Serane répond à vos questions. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et c'est Maître Serran qui est avec nous comme tous les vendredis. Maître Serran, alors on en parlait hors antenne, mais c'est vrai que janvier traditionnellement est un mois de soldes. Est-ce que vous-même, vous appliquez un code promo si on vient vous voir au mois de janvier? Est-ce
que c'est... Évidemment. Oui. Dépêchez-vous, parce que le mois de janvier se termine, là.
Ouais, mais bon, il y a encore une semaine.
Encore une semaine.
On peut monnayer combien, là?
Là, on peut monnayer, allez, je suis généreux, moins 20.
Ah ouais?
Ouais,
ça donc va. Si on vient de ma part, c'est moins combien?
De facto, on peut retirer sur le montant que je vais vous donner.
Ouais.
Retirer, allez,
facile.
On va dire, facile, allez, 300 euros.
D'accord. Et si on vient de la part de Kim, c'est combien?
Ah ouais, mais là, c'est...
C'est du gros là.
Là, c'est du lourd là après. Ouais. Ça, c'est autre chose avec
c'est,
Kim.
C'est autre chose.
C'est celui qui connaît bien Kim et qui vient de sa part, c'est chaud.
Faut payer en liquide par contre.
Ah, bah,
eh oui.
Ouais, mais on nous écoute pas.
C'est non. Le... Ah, pardon.
Non,
tiens,
voilà.
Ouais. Leïla est avec nous. Leïla au 01 53 48 3000. Leïla, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Merci beaucoup. Je vous appelle pour. J'ai une question en fait et j'ai pas la réponse. Je voulais savoir, mon mari en fait, il a. On a fait une demande. C'est moi qui m'occupe de ses papiers. On a fait une demande d'échange de permis étranger.
Oui.
Là, ça fait un an. Et c'est le papier avec lequel il conduisait, donc on lui a donné un délai d'un an, de 12 mois, il a expiré le 17 janvier. Et nous, bien sûr, j'ai essayé d'anticiper. J'appelais souvent tous les numéros qu'on venait. Et aucune nouvelle. On me dit il faut appeler Nantes, donc au 3400, j'appelle. Je tombe sur des opérateurs qui me disent... Ben nous, on peut rien faire. La seule chose qu'on sait, c'est que votre dossier, il est en cours d'examen, mais c'est tout. Ça veut dire que moi, j'ai aucun interlocuteur vraiment direct avec mon dossier, en fait. Vraiment. Et là, je me dis, les chauffeurs livreurs, ils risquent de perdre son travail. Parce que là, actuellement, il conduit avec son papier qui a expiré, mais son patron, il va pas le garder très longtemps comme ça, je pense.
Alors c'est toute la difficulté là, il a en la matière, c'est-à-dire que effectivement, quand vous êtes sur le territoire français avec un permis étranger, vous avez un délai d'un an pour pouvoir donc demander l'échange de ce permis avec un permis français. Le problème avec les administrations depuis quelques années, c'est qu'on vous donne un numéro et puis quand ils nous font le grand honneur de répondre, à part vous dire le dossier est en cours de traitement, vous n'avez pas d'informations particulières. Alors quand c'est comme ça, évidemment, mais bon, j'imagine que votre mari le fait, il faut quand même toujours se balader avec le premier document, quand bien même ce document arriverait à expiration, mais faut pas hésiter à renouveler votre demande, pas seulement par téléphone, mais surtout par écrit. C'est vraiment important, parce que si demain, votre mari fait l'objet d'un contrôle, il peut à minima... Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est au moins ça pour éviter une éventuelle interpellation et un contrôle auprès d'un poste de police. Donc, il pourra à minima au moins conserver la copie de la correspondance qui relance l'administration en disant « Attendez, à telle période, vous m'avez donné ça, ça arrive à expiration, j'ai essayé de vous contacter, j'ai pas de retour, donc je me permets de vous envoyer un courrier. » Mais il n'y a pas, entre guillemets, ce qu'on appelle de mise en demeure. Si on vous dit que c'est en cours de traitement... Eh ben, c'est en cours de traitement. Et il ne pourra éventuellement reprendre la main, juridiquement parlant, que si, par exemple, il y a un refus, parce qu'il arrive parfois que l'administration refuse donc de procéder à ces changements de permis. Mais tant qu'on vous dit, en tout cas oralement, que c'est en cours, madame, il n'y a pas d'option particulière, si ce n'est pour votre mari, que de conserver des preuves de ses démarches. Parce que le fait que ce courrier ne soit plus d'actualité, c'est pas imputable à monsieur, il y est pour rien, c'est qu'on a une administration qui bosse au ralenti. Donc à minima, faudrait qu'il garde ça. Maintenant, votre inquiétude, je la partage, il arrive parfois, et en particulier quand vous êtes chauffeur-livreur, par définition, ce serait bien d'avoir le permis, il arrive parfois que l'employeur lui-même considère que ça peut ou ça pourrait poser difficulté et que l'employeur ne souhaite pas prendre de risques particuliers, et il pourrait sur cette base-là dire eh ben on va peut-être se séparer et licencier monsieur. Donc c'est vrai que ça fragilise la situation de la personne, mais au moment où on se parle, Leïla, il n'y a pas d'autre option que ce que vous avez, j'imagine, déjà fait pour votre mari.
Donc, oui, j'ai envoyé des lettres.
Eh ouais. Ben alors, il va falloir vous lui laisser une copie de ses courriers recommandés à R, toujours avec lui, au moins pour établir sa bonne foi. Ben, je ne dis pas que quand le policier va voir ça, il va dire « oui, ok, il n'y a pas de problème, monsieur ». Alors, faut-il que le policier comprenne de quoi on parle, mais c'est pour éviter, entre guillemets, qu'il soit considéré de mauvaise foi ou qu'on puisse lui reprocher de ne pas faire le nécessaire et pourtant de conduire. Voilà, lui, il est carré à son niveau-là. Maintenant, je vous le dis, c'est vrai qu'on a des employeurs qui... mais je peux le comprendre, hein, quand on gère une société, des employeurs qui peuvent dire « mais moi, mon gars, je ne vais pas, peut-être pas prendre le risque ». Et donc tu reviendras me voir quand tu auras régularisé ta situation administrative. Donc ça, on pourrait lui rétorquer. Donc ça fragilise beaucoup les personnes dans cette situation.
D'accord, donc mis à part patienter...
Non, vous avez fait le nécessaire déjà en vérité. Ah ouais. Voilà, encore une fois, le seul truc peut-être en plus, c'est d'inviter monsieur à se balader avec la copie de toutes les relances que vous avez pu faire. Je le redis.
J'en ai fait beaucoup par téléphone. Donc
non, alors voilà. Dont acte. Je peux comprendre et c'est normal, mais ce serait bien de confirmer ça par écrit, recommandé à R. Ouais. Parce que vous imaginez bien que si demain il y a une difficulté et que monsieur tient ce discours en disant oui, mais on a fait des relances par téléphone, ça vaut rien. Donc relance par téléphone, pourquoi pas. Mais ce serait bien quand même qu'il y ait un petit courrier destiné à l'administration qui fait un récapitulatif de tout ce que vous avez fait déjà. Et que monsieur se balade avec. Alors, c'est pas c'est pas un passeport diplomatique. Avec ça, je vous dis pas que s'il tombe sur des pinailleurs qui vont le laisser tranquille. Mais à minima, au moins, il pourra établir sa bonne foi. Voilà, en expliquant que lui a fait le nécessaire.
D'accord.
Voilà, merci. Leïla.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour votre appel et votre question, Leïla. Mehdi, bonjour et bienvenue sur Beurre FM, Mehdi.
Oui, bonjour. J'aimerais poser une question, en fait, concernant un visa long séjour que j'ai fait la demande au consulat de France de Casablanca pour ma femme, ayant passé toute la procédure, c'est-à-dire transcription du mariage dans l'état civil français. Actuellement, je suis en attente de la réponse concernant le visa. Je suis dans un délai de un mois et demi. J'ai aucune réponse et on me dit à chaque fois que c'est en cours d'instruction. Mais je connais des personnes à qui on a donné une réponse rapide en 4-5 jours, parce que en droit français, je pense que le visa long séjour est donné automatiquement, quoi.
Non, monsieur, s'il y a bien un visa recours, qui n'est pas donné automatiquement, c'est bien le visa long séjour. Parce que long séjour, voilà, pour que les auditeurs comprennent, c'est qu'à partir du moment où j'ai un visa long séjour, ça me permet de m'installer sur le territoire français. Donc ça se saurait si la France, quel que soit le pays, là on parlait du Maroc, mais Algérie ou autre, ça serait si la France était généreuse en matière de visa long séjour. Donc, alors, vous voyez ce que vous nous dites là, je l'entends assez régulièrement. Souvent, on nous dit, mais je connais un tel, il l'a eu en très peu de temps. Oui, peut-être. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas un dossier Kamel qui ressemble à... Non, c'est pas Kamel d'ailleurs, pourquoi je dis Kamel ?
Non, c'est Mehdi.
Mehdi, pardon. Il n'y a pas un dossier, Mehdi, qui ressemble à un autre dossier. Donc faites attention à ce genre de comparatif, je vous assure que ça veut absolument rien dire. Alors, pardon, je ne sais pas si vous avez écouté l'auditrice précédente qui nous disait qu'elle n'avait pas eu de réponse, mais quand elle se renseigne, on lui dit que c'est en cours. Le truc, Mehdi, c'est que quand on vous dit que c'est en cours, eh ben c'est en cours. Et l'administration, encore une fois, je ressors souvent ce délai, si vous n'avez pas de retour de leur part dans un délai de 4 mois, vous pouvez commencer à vous poser la question et éventuellement engager une procédure pour contester ce silence et ce refus donc implicite. Mais là, vous me dites c'est un mois et demi, c'est ça ?
J'ai pas entendu, excusez-moi.
L'attente, là, ça fait quoi, à peu près un mois et demi ?
Ça fait un mois et demi, ouais.
Ouais, bon, alors... pour vous, évidemment, que c'est toujours trop long. Moi, je raisonne en termes juridiques, c'est un délai plus que normal. Et ils ont, à minima, 4 mois pour vous apporter une réponse. Donc, ne vous minez pas l'esprit en disant « je connais un tel ou un tel, en 3-4 jours, il l'a obtenu ». C'est peut-être vrai, mais on est parfois dans d'autres circonstances. Et je le redis, alors je ne veux pas anéantir votre raisonnement, mais encore une fois, s'il y a bien un visa qui est difficile à obtenir, même quand c'est en qualité de conjoint d'eux, c'est le visa long séjour. Hein. Donc la France n'est pas généreuse avec ce type de visa. Mais pour l'instant, vous êtes dans le timing, hein, Mais il n'y a, y a pas lieu de paniquer ou quoi que ce soit.
Bah parce qu'on a, en fait, on n'a aucun recours. En fait, on ne peut pas appeler le consulat de France. Personne ne donne aucune information.
Ouais, je sais, c'est encore une fois, c'est toute la difficulté. Et vous voyez, l'auditrice précédente nous disait, on appelle un numéro. Et alors qu'auparavant, enfin moi je suis de la génération où il n'y avait pas mieux que le recommander AR. La difficulté, c'est que maintenant, les gens finissent par oublier qu'on peut quand même envoyer un courrier. Ouais, ça existe encore. Et ben là, faites la même chose. C'est-à-dire que même si vous avez toutes les difficultés du monde à joindre ce service administratif, ce service consulaire, ils ont toujours une boîte aux lettres. Il y a toujours.
J'ai envoyé un mail à une adresse mail qu'ils ont pour faire une relance et ils répondent avec un mail automatique.
Oui.
En disant,
non, mais on est d'accord. Enfin voilà, il n'y a jamais de réponse personnalisée en fonction des uns et des autres. Mais tant que la réponse c'est on est en train d'examiner le dossier, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de paniquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si on vous dit bah non monsieur c'est négatif, bon là à partir de ce moment-là vous pouvez commencer à réfléchir sur des recours. Mais quand on vous répond ça. Compte tenu hein, du timing que vous me donnez, vous me dites ça fait un mois et demi que vous attendez, c'est un délai qui est franchement normal. Hein. Il n'y a pas lieu de paniquer là.
D'accord, ok. Ok, merci beaucoup.
Mehdi, donc panique, merci pour votre appel.
Merci Mehdi.
Merci. Malik est avec nous. Malik, bonjour et bienvenue sur BFM.
Bonjour.
Maître Serran, vous revenez de Chine?
Non, je reviens pas de Chine, mais vous souvenez, je vous avais raconté.
Je me trouve un peu toussant quand même. Hein.
J'arrête pas de tousser.
Ouais, ça m'inquiète. Ouais, on peut aérer là le studio parce qu'avec Kim, là, on est avec des masques. Alors là, j'ai peur là.
On en est là.
Ouais.
Mais ça fait tomber les cheveux en plus, paraît-il. L'un des symptômes de. Donc vous me regardez, je suis pas concerné, je suis pas infecté.
Bon,
ouais,
Malik.
Mais je suis pris là. Ouais.
Malik.
Oui, Malik.
Bonjour.
Bonjour, Malik. On vous écoute.
Oui, alors meilleurs voeux à toute l'équipe et puis à tous les autres.
Merci Malik, à vous aussi. Mais une très bonne santé.
Bonjour maître. Alors moi, j'ai une question un petit peu particulière. À chaque fois que je vous ai au téléphone, d'ailleurs, j'ai une question particulière. Donc, j'ai un petit neveu qui conduisait sans permis, qui a fait une peine de prison, qui est.
Alors qui, pardon, alors j'ai le petit neveu
qui conduisait sans permis.
Ah, qui conduit sans permis.
Ouais.
D'accord.
Voilà. Alors, il conduisait sans permis. Hein. Il était sur retrait de permis. Il a fait 9 mois de prison. Il est sorti. Il a repassé son permis. Il est retourné au travail. Tout bien, tout sérieux. Petit souci, son papa est décédé. Il va donc pour enterrer son papa en Tunisie. Il arrive à l'aéroport. Ben, il se fait arrêter. Il a jamais pu partir. Donc, il y avait un mandat d'amener. Je lui ai dit de faire une procédure pour faire retirer ça et puis voire même pour pouvoir se faire dédommager parce qu'il n'a pas pu aller à l'enterrement de son papa.
Mais quand vous dites un mandat d'amener prononcé par qui sur les autorités françaises qui demandent ça?
Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Oui, il a fait son temps de prison et puis en fin de compte, comme il y avait un avis de recherche avant qu'il aille à la prison, ils l'ont partiré.
D'accord, voilà, on est d'accord. C'est un mandat d'amener qui n'est plus d'actualité. C'était par rapport à la peine qui a déjà été accomplie.
Qui a été faite.
D'accord.
Voilà, qui a été faite. Bon, il me dit, ouais, c'est compliqué et tout. Je dis, écoute, franchement, fais le nécessaire. Bon, il fait pas le nécessaire. Une semaine passe. Hier soir, en fin de compte, il était sur la route. Il se fait arrêter et regarde à vue toute la nuit, il y est encore. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement?
Encore une fois, à partir du moment où vous me dites que ce mandat d'amener est lié à une peine qui a déjà été accomplie par ce jeune homme, ça devrait se régler, comme dirait, très rapidement. C'est-à-dire que, alors peut-être que sur les... sur informatique, pour une raison X ou Y, peut-être que ça n'apparaît pas, mais à partir du moment où il est placé en garde à vue, les policiers vont contacter le service de l'exécution des peines, seront en contact avec un procureur de la République. Bon, dans ce pays, quand on fait une peine, ça apparaît, vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, on va simplement lui confirmer, dans l'hypothèse où c'est un mandat d'arrêt qui est lié à cette peine-là, on est d'accord, et pas autre chose. Donc ça devrait honnêtement rentrer dans l'ordre sans difficulté.
Le petit souci, c'est quand même, une première fois, il ne peut pas aller enterrer son papa, qui n'est pas rien, hein, surtout qu'il a déjà...
Bien sûr, oui, bien sûr.
Je trouve que, personnellement, il y a un préjudice.
On est d'accord, mais vous savez, le truc, c'est qu'il y a déjà eu cette alerte malheureuse, puis vous me dites qu'il n'a pas pu, effectivement, aller enterrer son père. Mais à partir de ce moment-là, il aurait pu déjà se rapprocher du tribunal pour dire « Attendez, il s'est passé ça, merci de m'expliquer ce qui se passe ouais, », pour éviter de se retrouver en garde à vue depuis hier.
Oui, mais ça a été fait. ça a été fait.
Hein, mais donc quand il a été au tribunal, on lui a dit quoi à l'époque, monsieur ?
Eh ben non, c'est même pas qu'il a été au tribunal, c'est que la première fois il s'est fait arrêter donc au passage douane à Paris.
Ouais.
Il est parti au poste de police. Le poste de police a contacté le procureur ou la personne adéquate. Ils lui ont dit oui, vous pouvez le relâcher, il n'y a pas de problème. Bon, sauf qu'il avait complètement raté l'enterrement de son père. Ouais. Il est revenu chez moi, je lui ai dit ça c'est pas clair. Voilà le numéro de téléphone de mon avocat, t'y vas. Tu vois, parce que pour moi, là, il y a un préjudice, vois, parce que autrement, ça peut être compliqué. Il a été le voir, l'avocat, bon, il s'est dit un petit beurre, bon, fait chier. Ils n'ont pas parlé la même langue, il est parti de là, il a dit, ouais,
il a pas dit ça. Il a dit ça, l'avocat.
Il a dit, fait chier.
Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit comme ça.
Ah bon, là, parce que là.
Mais c'est moi qui l'image. Mais bon, le gamin, il dit, bon, ben, je laisse tomber. Et puis voilà, mais en tout état de cause, il s'est fait arrêter. Il y a eu un contact avec le procureur de la ville XY qui a dit oui, vous pouvez le relâcher. Le travail n'a toujours pas été fait à ce moment-là. Plus d'une semaine plus tard, il se fait réarrêter. Alors bien sûr qu'il va ressortir, mais bon, aujourd'hui.
J'entends bien. Non, mais c'est encore une fois, à partir du moment où vous êtes carré et qu'effectivement, sur un plan, j'allais presque dire purement informatique, chaque fois qu'il se fait contrôler, on lui dit monsieur, voilà ce qu'on a à vous reprocher, ça peut être pénible. Maintenant, alors bon, il va être relâché.
Oui.
Voilà, attends, Maître Sarne, je lève le doigt pour vous dire qu'il faut faire court, parce qu'il va y avoir la pub.
D'accord, voilà. Donc on va faire vite. Ouais. Quand il sera relâché, monsieur, il faut vraiment que physiquement il y aille. Ça, c'est important qu'il y aille avec sa pièce d'identité. Et je le redis, c'est juste une histoire d'incompréhension, mais ça devrait se régler sans problème à sa sortie. Après, s'il veut demander des dommages et intérêts parce qu'il n'avait pas pu aller voir son père, pourquoi pas ?
Ouais, d'accord. Parce que là, aujourd'hui, là, il n'est pas au boulot non plus.
Bien.
Il en a intérêt, vous voyez bien. Et toute petite parenthèse.
Non, alors attendez, mais restez en ligne, Mali, parce que là on va couper, on vous reprend dans un instant.
AVS revient dans un instant. Bien plus 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Mourad Serral. Maître Mourad Serral, vous voyez, nous, on est dans une autre dimension.
Ah, c'est absolument. D'accord, je suis d'accord.
Ismaël Mounir est arrivé avec son équipe.
Ah, il vient avec une équipe.
Non, mais attendez. Ouais.
15 personnes.
Coiffeur, maquilleur, non, mince, je suis en train de répandre des rumeurs.
Ouais,
coiffeur, maquilleur, habilleur, voilà.
Coach
sportif. Ouais. Il n'a pas commencé encore, mais.
Ah si, j'ai commencé.
C'est vrai ?
Ah ouais. Je fais du sport à 6h du matin maintenant.
C'est pas vrai. Non, et voilà, Maître Serral. Ouais, ouais. Franchement.
Et moi, je viens sans mes cheveux. On en est là, il y a une égalité dans la vie. Tu comprends rien.
Franchement, c'est mal fait.
Ah, franchement, ouais.
Tiens, on va. Oui, c'est Moulouda qui vous appelle au 01 53 48 3000. Moulouda, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Ah oui, bonjour monsieur. Bonjour.
Alors oui, Moulouda, vous n'avez pas une voix, vous appelez Moulouda ou alors peut-être qu'il y a un mauvais réglage.
Ouais. Non, c'est Mouloud.
Ah, Mouloud, ah, voilà.
Mouloud. Oui, Mouloud de Paris.
Voilà, c'est parfait. Là on est raccord, voilà. Mouloud.
Saha Mouloud de Paris, vous écoute.
Oui, Saha. Moi, j'ai un problème avec mon employeur. C'est pas un problème, mais bon, moi ça fait presque 13 ans que je suis dans la même boîte. Je travaille à Paris et j'habite à Chartres. Et je prends le PS tout le temps, ça fait 13 ans. Et dès que le jour le lendemain, l'employeur il a interdit pour tout le monde, on prend pas le péage. Et après moi, de Chartres à Paris, des fois je mets 2h30, 3h, plus le travail de la journée et plus le retour. Là c'est fatigant. Est-ce que c'est normal ça ou pas?
Alors j'ai du mal à comprendre, vous dites vous preniez le péage et puis l'employeur ne veut pas que vous preniez le péage?
Non, avant il payait, j'imagine que l'employeur vous remboursait le péage, c'est ça Mouloud?
Non, on a la carte JR.
Ah oui,
La carte JR.
Et puis là ça se fait plus.
Là ça fait 13 ans que je suis dans la même boîte et je prends le péage aller-retour chaque Paris tous les jours, il n'y a pas de problème. Ouais. Et après d'un coup... Le directeur, il a interdit pour tout le monde. Pour tout le monde. Et moi, ça me fait de la fatigue, ça me fait de la route, ça fait trois... Des fois, je passe trois heures.
Alors, on peut l'entendre et le comprendre, évidemment, et ça peut être pénible, mais voyez, s'il avait ciblé une ou deux personnes, ou s'il dit « c'est que pour vous, Mouloud, et pour les autres, ça reste », on peut dire « on est en matière de discrimination et puis éventuellement contester ». Si c'est la politique de la boîte qui dit bah les gars à partir d'aujourd'hui c'est comme ça et pas autrement, on peut pas le contraindre ou le forcer, vous voyez, c'est toute la difficulté.
Mais la mémoire, ils savent très bien que j'habite à Chartres. Je fais 100 km par jour, des fois 3 heures pour arriver au travail, plus la journée de travail, plus le retour.
Ouais, mais
là, c'est fatigant. Il y a des risques d'accident sur la route, avec la fatigue, avec des fois la neige, des fois, je ne sais pas.
J'entends bien, mais Mouloud, encore une fois, alors je suis désolé, je ne vais pas forcément aller dans votre sens, mais ouais. Vous pouvez comprendre que si moi je suis un chef d'entreprise, si je dois me poser la question pour chacun de mes salariés, à savoir, les gars, est-ce que les conditions météorologiques sont bonnes? Est-ce que vous habitez loin ou pas? Non. Est-ce que... Vous voyez, c'est injouable. C'est-à-dire que vous travaillez, vous avez un contrat, ça commence à telle heure. Qu'on le veuille ou non, l'employeur, il n'est pas là pour dire je vais faire en sorte que vous arriviez à l'heure. C'est à vous de faire ça.
Alors, est-ce que Maître Serran, on peut revenir juridiquement sur un avantage, puisque c'était un avantage qui était accordé? Après 13 ans, est-ce qu'on peut considérer au bout de 13 ans que cet avantage eh bien, fait partie
du contrat
et notre revenu ou pas ouais.
Il y a, encore une fois, il n'y a rien qui interdit de l'invoquer, mais sincèrement, ce ne serait pas sérieux de ma part de dire ça fait 13 ans que cet avantage est accordé. De facto, un conseil des prud'hommes va dire à l'employeur
non, cher patron,
c'est comme
non,
ça ou pas
non, je ne veux pas arriver à là.
Non, mais j'entends bien. Non, mais voilà, non, Philippe posait la question.
Et moi, je travaille par jour presque 14 heures, quoi. Par rapport au trajet, par rapport aux heures de travail, par rapport au retour.
Mais alors, d'abord, est-ce que vous en avez parlé, j'allais dire, directement à l'intéressé, enfin, ou à un représentant,
oui,
je ne sais pas,
ouais, comment votre structure parlé,
qu'est-ce
oui.
que ça dit?
Ça dit, on va essayer de trouver quelque chose à côté, parce que c'est une grande boîte, c'est Vinci. Et Vinci Autoroute. Vinci Autoroute.
Bah c'est Vinci Autoroute et ils vous refusent le...
C'est paradoxal, c'est fou.
Ça n'a pas de sens.
Non, je suis dans le groupe de Vinci.
Mais oui, j'entends bien, enfin voilà, c'est le même groupe.
Oui, c'est le même groupe, c'est ça le problème. On est Vinci... Il y a 26 autoroutes, 26 énergies, la 26 facilités.
Oui, on va pas tous les faire. Voilà, donc 26.
Là, je suis dans le groupe de 26.
D'accord. Et mais en dehors de vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se plaignent? Parce qu'évidemment, si vous êtes tout seul, on va considérer que vous êtes peut-être, pardon pour le terme, un pénible, mais est-ce que vos collègues, ça leur pose aussi difficulté?
Il y a beaucoup de gens, il y a de 2019, de janvier jusqu'à décembre, il y a 45 personnes qui sont parties.
Ah oui, carrément.
Ah oui, parce que là, parce que...
Alors quand je dis des personnes qui sont embêtées, c'est-à-dire qui se disent pas, nous fatigue, on quitte la boîte, mais est-ce qu'il y a une, entre guillemets, une revendication? Est-ce que vous êtes plusieurs pour dire, attendez, ça nous arrangerait que...
Il y a 45 personnes l'année dernière, 45 la personne qui sont parties. Moi, si une petite boîte, ou je comprends, mais on est du groupe 26.
C'est ce que disait Philippe, c'est-à-dire que en droit, à partir du moment où vous avez une société qui vous accorde un avantage, par exemple une société qui, je dis n'importe quoi, qui vous verse une prime depuis X temps, du jour au lendemain on vous dit, c'est terminé, il n'y a plus de prime, vous avez le droit de considérer que c'est en droit, on dit, un accessoire du salaire, c'est-à-dire que ça fait partie de ce que la société nous a versé depuis toujours. Ça, c'est un avantage en nature. Donc, il n'y a rien qui vous interdirait de le contester, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même qu'il faut saisir les prud'hommes, alors vous serez peut-être regardé de travers par la boîte, voilà.
Non, je ne veux pas me casser la tête, les prud'hommes.
J'entends bien, bien sûr, j'entends bien.
Là oui, c'est ça, je ne gagne pas ou je sais.
Ce ne serait pas sérieux de ma part de vous dire, écoutez, faites-le, vous êtes sûr d'eux.
Non,
dehors de ça, monsieur, il n'y a pas d'autre option.
Moi, je vois par rapport à la sécurité de l'employé.
On en revient à la même chose, monsieur. C'est-à-dire que moi, si je vous emploie et si vous venez de Marseille tous les jours en trottinette, c'est pas mon problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je signe un contrat avec vous.
Si vous êtes dur, maître Serran.
Non, mais parce que c'est la réalité.
Franchement, vous êtes.
Il ne vient pas de Marseille en trottinette, quand même.
Non,
quand
bien
même, c'est électrique. Voilà. Non, mais le truc, c'est que je vous emploie, je veux que vous soyez au sein de la boîte à 8h ou à 7h, peu importe. Qu'on le veuille ou non, c'est pas à moi, employeur, de me dire, tiens, est-ce que les conditions sont sympas? Est-ce que je lui envoie un chauffeur? Enfin, voilà, je caricature un peu, mais il y a de ça. le vraiment le point intéressant, c'est ce qui a été soulevé par Philippe, c'est ça, c'est si pendant 13 ans ça a fonctionné comme ça, est-ce que cette boîte peut du jour au lendemain vous dire bah les gars, là c'est terminé? Ça c'est une vraie question juridiquement parlant, mais ça voudrait dire de saisir et de contester cette décision.
On a croisé, moi j'ai parlé avec mon directeur, mon PDG, le truc, ils m'ont proposé trois choses. Soit ils vont me trouver, parce que Vinci, ils peuvent me trouver quelque chose autour de
Jacques. Bon, c'est déjà sympa ça, non?
Ah oui, c'est déjà sympa. Soit je démissionne.
Ouais, bon,
c'est moins sympa.
Ouais. Oui, soit je ne viens pas travailler pendant 3 jours ou 4 ans, je vais être licencié.
Oui, non, enfin, d'accord, enfin, c'est n'importe quoi ça comme...
Donc ils vous ont fait un choix, une proposition.
Voilà, la proposition, voilà, ce qu'on appelle proposition, c'est éventuellement de vous dire, voilà, il y a peut-être un poste dans le secteur, pas loin,
oui,
là où vous habitez.
Oui, là c'est bien ça, oui, là c'est
bien. Bon, est-ce que vous avez accepté?
Non, j'ai pas, ils ne m'ont pas encore trouvé, d'accord. Moi là je suis en train de chercher, mais les deux autres propositions...
Non, mais monsieur, les autres, ce n'est pas des propositions. Vous comprenez? C'est-à-dire que soit vous leur dites, bon, bah, les gars, je démissionne, khlas, on laisse tomber. Soit vous faites ce qu'on appelle une rupture conventionnelle.
Alors, c'est pas ce qu'ils ont dit.
Ouais, voilà.
Non, ça, c'est un licenciement pour vous autres.
Donc, vous voyez, le reste, c'est pas une proposition.
J'ai demandé rupture, il m'a dit non.
Ouais, bon, ben. Non, mais les autres, ce n'est même pas des propositions. C'est pour vous dire, monsieur, démissionnez, on va vous licencier. Enfin, bon, vous comprenez ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc la seule proposition qui serait intéressante, c'est éventuellement un petit poste pas loin de chez vous.
Là oui, moi j'ai demandé rupture conventionnelle.
Ouais, bah oui.
Il m'a dit non.
Ils veulent pas. Bah ouais.
Ils veulent pas.
Parce que c'est créer des précédents, ils aiment pas ça,
non,
les
gars. Complètement,
groupes,
mais donc... on peut, encore une fois,
mais,
voilà, juridiquement, on peut l'entendre.
L'autoroute, 2000 euros par an, le groupe de Vinci, il va pleurer pour 2000 euros, c'est n'importe quoi.
Ouais, non mais, j'entends bien, encore une fois, et c'est pour ça que la seule réponse sérieuse qui a été apportée, qu'on le veuille ou non, c'est celle de Philippe, à savoir que cet avantage a été accordé. Est-ce qu'on peut le rompre du jour au lendemain? Juridiquement, ce n'est pas certain. Et effectivement, selon moi, non, puisqu'il y a cette habitude qui s'est créée. Mais ça veut dire, je saisis d'accord. un prud'homme et en face, j'ai mon employeur. Donc ça peut créer une ambiance pas cool.
Non.
Bon.
Non.
C'est non, quoi, Mouloud, vous allez noter le numéro de Maître Serhan qui s'affiche en même temps sur les transistors.
Absolument.
Et qui vous donne très gentiment
06 62.
Excusez-moi, 06
62
ouais.
58 59
58 59
64
64. Je répète, 06 62 58 59 64.
C'est ça.
Merci.
Bon. Et puis Mahmoud, surtout tenez-nous au courant, puis j'espère qu'ils vont trouver une solution. Là déjà, vous en avez parlé sur l'antenne de Beurre FM, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui vont...
C'est pour ça.
Ah oui, il y a peut-être des gens de chez Vinci, chez Vinci qui écoutent.
Je m'appelle Zoyer.
Voilà.
Bon, Zoyer. Ok,
Zoyer. Voilà, Zoyer qui a expliqué comme quoi Vinci...
C'est pas midi, non?
Non, mais du tout avant, Maître Serhan. Ah bon, votre grippe vous attaque le cerveau, là, maintenant.
Ça, je pense.
Non, je suis grippé, moi.
Ah oui, vous aussi. Ah bah, dis donc.
Okay. Bon.
Là, oui.
Surtout les grippés de France nous appellent.
J'ai parlé à Beurre FM exprès par rapport à Vinci, le groupe Vinci.
Groupe Vinci, voilà. Ils vont nous faire sauter tous nos avantages sur les parkings, sur les autoroutes. Là, Maître Serhan, vous rendrez votre carte tout à l'heure. À la RH.
Ouais, je suis obligé.
Zoher, merci en tout cas pour votre appel. Maître Serhan, on vous retrouve vendredi prochain et dans un instant. C'est l'islam au présent avec Ismaël Mounir.